Les œuvres qui naissent ainsi ne sauraient être nommées peinture ou sculpture. J'ai pu constater le désarroi des sculpteurs et celui des peintres si on leur demande de nommer ces œuvres. Philippe Muel les nomme des mousses, évoquant ainsi le processus de leur naissance, leur aspect, leur texture. Les rapports du créateur, de l'artiste et de ce matériau nouveau font l'objet de cette émission. Philippe Muel, d'une façon générale, quand vous faites des mousses, quels sont vos rapports avec le matériau ? Qui est-ce qui compte, lui ou vous ?
Ah, mais ça c'est très intéressant. Ce qui compte, c'est nous, si vous voulez. Lui a envie de faire quelque chose, et moi j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne veux pas arriver à faire exactement ce que je veux. Je veux qu'il m'en empêche un peu. Il m'est arrivé, par exemple, de faire des mousses petites, très petites. Alors, le temps est le même que pour une très grande toile, mais je suis parfaitement à l'aise. Ça gonfle doucement, je peux me mettre sur une table. J'ai aucune impression d'angoisse, ça va tout seul. C'est exactement comme si je peignais, si vous voulez, avec un pinceau sur une toile avec des couleurs. C'est pas... Et ça me paraît peu intéressant. Ce que j'aime, c'est de très grandes mousses. Parce que là, il y a un certain moment où j'ai un peu peur du matériau. J'ai peur d'une part de rater, si vous voulez, puis j'ai même vraiment peur de lui, un petit peu. Si, un petit peu. Ça devient un peu impressionnant, quelquefois. Alors ça chauffe en gonflant. On se sent un petit peu menacé. Et ça, je crois que c'est important. Si on n'a pas peur, je crois qu'on ne fait rien de valable. Qu'on ne soit pas du tout cette définition de l'artiste qui était quelqu'un d'extrêmement sûr de lui. Enfin si, je la conçois pour le passé, mais maintenant je ne crois pas. Il faut au contraire qu'il soit continuellement menacé, comme après tout on est tous continuellement menacés par tout ce qui se passe autour de nous, dans des périodes enfin, où les choses évoluaient moins vite. Je crois que les gens avaient le temps de s'habituer à ce qui se passait. Nous, on n'a plus le temps.
Les couleurs à l'huile ne menacent pas le peintre.
Non. Remarquez, il aurait pu se faire menacer par quelque chose, mais il n'en avait pas envie, il n'avait pas de raison d'éprouver cette sensation en peignant. Alors je crois que maintenant, on a besoin d'avoir cette sensation. Sans ça, on fait quelque chose qui n'est pas du tout situé actuellement, il me semble.
Mais cette préoccupation du matériau qui apporte non seulement sa résistance, mais une résistance nouvelle et encore plus une menace, est-ce que cette idée, ce besoin, vous les aviez avant de travailler les mousses? Est-ce que vous en sentiez la nécessité il y a assez longtemps? Est-ce que la vitesse d'exécution que vous avez signalée tout à l'heure comme étant le fait de Mathieu ne préfigurerait pas déjà quelque chose comme la réduction de l'intervention de l'individu en présence du matériau? Le contrôle dans la vitesse étant bien entendu moins grand par définition.
Ah, je ne sais pas, il est moins grand, mais c'est justement dans une peinture graphique, c'est là qu'intervient le talent. Enfin, ce que j'entends par le talent, quoi, c'est-à-dire la façon de s'y prendre, habile. Oui, je voudrais presque dire
l'habileté manuelle.
L'habileté, oui, pas tout à fait, c'est aussi l'élégance du geste. Non, je crois qu'on peut être, on peut parfaitement diriger un geste très rapide. Il me semble.
Donc la volonté de vitesse n'est pas une volonté de retrait de l'individu?
Non, je ne crois pas.
Alors il me semble le voir. Alors par contre, ensuite naître dans vos autres recherches une certaine volonté de retrait devant le matériau et par conséquent devant le phénomène, le matériau réagissant.
Oui.
J'irai presque jusqu'à dire que j'ai l'impression, je vous ai vu travailler, j'ai presque l'impression que vous aimeriez donner l'impulsion, être à l'origine, être la cause de, peut-être intervenir une ou deux fois, mais laisser faire. Après avoir été la cause, toutefois, vous ne renoncez pas, bien entendu, à l'intervention. Est-ce qu'on pourrait dire cela?
Moi, je crois que le matériau a plutôt une autre valeur. Je n'utilise pas des matériaux qu'on pourrait trouver tout faits. Si je choisis ce genre de matériaux, c'est parce qu'ils sont commodes, mais c'est d'autre part parce qu'ils sont fonction d'une technique. Que d'autres gens ont fait ces matériaux, pour d'autres usages d'ailleurs. Et que je m'arroge le droit, moi, d'en faire autre chose.
Ah, mais ça, c'est un phénomène constant dans tout l'art moderne.
Oui.
Hein? Peintres, sculpteurs et musiciens détournent de l'utilisation prévue
par le technicien et par l'industrie, et j'ai même envie de dire par l'industrie lourde, par la grosse, par la grande industrie, détourne un certain nombre de machines, un certain nombre de matériaux, un certain nombre de processus, et en font œuvre d'art, à la stupéfaction du technicien qui n'avait pas prévu du tout qu'avec sa machine ou avec son matériau, on pourrait faire une œuvre d'art.
Ben, je crois que s'il y a un avenir en art actuellement, c'est tout à fait dans ce domaine.
Et ainsi, on voit s'établir une collaboration entre la grosse industrie et l'artiste.
Oui, mais attendez, il y a une chose assez intéressante. C'est que vous disiez qu'on détourne une technique ou un matériau. Mais il est très possible que les chercheurs, qu'ils soient techniciens ou même scientifiques, puissent profiter des expériences des artistes. Par exemple, ça ne m'étonnerait pas tellement qu'ayant réalisé une vingtaine de sculptures à base de champs électromagnétiques, le fait d'avoir pris un champ électromagnétique tout à fait d'une autre façon puisse donner des idées à un chercheur et lui permettre peut-être de trouver autre chose. Moi, je me sers de ce qu'il a fait, mais lui peut peut-être aussi servir de ce que j'ai fait, on ne sait pas, ça ne me paraît pas absolument impossible.
Non, ça n'est pas impossible. De toute manière, ce sur quoi je voulais mettre l'accent tout à l'heure, c'est sur une forme de collaboration absolument neuve imposée par les conditions de création de l'œuvre d'art contemporaine. Il y a 30 ans, pour créer l'œuvre d'art, pour la peinture, pour la sculpture, pour la musique, on ne concevait pas du tout l'alliance entre l'industrie et l'artiste. Et les conditions de la création, surtout dans le domaine plastique actuellement, impose presque une collaboration entre l'artiste et l'industrie.
Oui, mais on a beaucoup de
mal. Vous avez besoin de l'industrie.
Oui, bien sûr.
César a besoin de l'industrie.
Oui. Oui, oui.
Diaz a besoin de l'industrie.
Oui.
Beaucoup d'autres ont besoin de l'industrie. Les compositeurs commencent à avoir besoin de l'industrie. Besoin d'un grand espace, besoin d'une grande machine, besoin d'une quantité importante de matériaux, besoin de limiter les dangers d'une explosion, les dangers d'une expérience quelconque, toutes choses qu'on ne peut pas faire dans un atelier, dans un appartement, toutes choses qu'on ne peut plus faire seul.
Oui, alors c'est très intéressant ça, parce que ça permet d'imaginer certaines choses qu'on pourrait faire si on nous permettait de les faire. Je pense à une chose, par exemple, qui me fascine énormément, c'est de faire des formes dans un milieu d'apesanteur. Dans une fusée interplanétaire, enfin dans un satellite artificiel. Alors c'est très difficile parce qu'il faut imaginer. On arrive, si vous voulez, à une notion d'art-fiction un petit peu. Je me pense moi-même dans cette fusée dont j'ai vaguement entendu parler, j'en connais un peu les... Enfin, je sais un peu ce qui se passe à l'intérieur, mais je ne peux absolument pas imaginer ce que je vais y faire. Alors par exemple, j'ai d'abord réfléchi, j'ai pensé que je prendrais des matières, je les jetterais en l'air. Puis je me suis aperçu que, pensant ça, imaginant ça, je me pensais moi en milieu de pesanteur. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passerait, je crois. Ce qui se passerait, j'en sais rien, mais on peut presque imaginer qu'on arriverait à créer des formes dans lesquelles on s'enroulerait, qu'on ferait partie d'elles-mêmes au moment où elles se font. Imaginez qu'on soit, qu'on s'assimile à un tube de pâte dentifrice, qu'il sorte quelque chose, et que le tout bouge dans ce milieu de non-pesanteur. Il faudrait que ça dure, si ça prend, enfin ça, peu importe, mais... On pourrait imaginer des quantités de choses, des quantités de façons d'intervenir. J'aimerais beaucoup voir d'ailleurs quelqu'un qui s'occupe d'art-fiction. On peut facilement imaginer pas mal de choses. Il y a une chose qui m'avait pas mal frappé une fois. J'avais entendu parler de machines à calculer analogiques. C'est des choses qui se passaient en Russie il y a un certain temps, de ça. Alors on avait fait une certaine machine à calculer analogique. Et on avait branché cette machine sur le cerveau d'un homme. Et la dite machine produisait un résultat sur un écran de télévision. Alors en fait, on ne voyait pas grand-chose, je crois que ça faisait des petites nuées. Mais à ce moment-là, ils étaient en train de construire une machine 20 ou 30 fois plus puissante. Alors je trouve ça assez impressionnant, parce qu'après tout, c'est une expression absolument directe. Je ne sais pas comment c'est branché sur le cerveau, quelle partie de nous ça touche. Alors il y a tout de même un résultat qui dépend de nous et qui se matérialise immédiatement. Ça, je trouve ça assez passionnant. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller.
Mais il y a un paradoxe actuellement. Dans tout ce qui se passe vraiment à l'intérieur des arts contemporains. Limitons-nous là au domaine plastique. Limitons-nous à tout ce qui se passe dans dans l'espace que, courant que tout le monde pensait à trois dimensions. Il se passe deux choses. D'une part, une espèce de retrait du créateur devant le matériau qui lui demande, comme vous lui demandiez tout à l'heure, résistance nouvelle et menace. Et qui fait que le créateur, comme vous l'avez fait tout à l'heure, dit « nous, le matériau et moi ». Ce que jamais, au grand jamais, un peintre qui peint encore avec des brosses et de l'huile dirait. On n'entendra jamais ces peintres dire « nous » en parlant de l'huile et oui. de leurs brosses. Absolument pas. Vous dites « nous ». Il y a chez tous ceux qui font des recherches, donc déjà cette volonté, je ne veux pas les énumérer à nouveau, c'est précisément ceux qui parlent dans cette série d'émissions. Ils veulent intervenir dans le phénomène, déclencher le phénomène, mais en même temps que ce phénomène ait une liberté pour s'exprimer. On le contrôle, on peut peut-être le malaxer, si le mot a un sens, on intervient, on le modifie, mais on donne une importance considérable au phénomène, jusqu'à parfois souhaiter le déclencher, puis ne plus intervenir du tout, et voir ce qui se passe. Et même chez vous, je vois un peu cette démarche. Et puis, d'autre part, en analysant sa démarche, le créateur actuel souhaiterait en même temps remonter jusqu'à la pensée elle-même et supprimer tous les intermédiaires. D'une part, il y a « je disparais, je mets l'accent sur le matériau, je mets l'accent sur le phénomène, je vais jusqu'à étudier un phénomène de la nature, me demander quelle trace un phénomène de la nature va laisser sur un papier, sur une feuille de métal, sur un support quelconque. » Et je vais jouer sur le temps parce que dans la nature, les phénomènes peuvent être très brefs ou peuvent être très longs, peuvent s'étendre sur des millénaires. Je vais tâcher de modifier ces temps, peut-être d'allonger les temps très brefs, de raccourcir les temps très longs. Mais je vais laisser faire le phénomène et si je joue, ça sera sur le temps du phénomène. Je vais essayer de structurer autrement un temps et une durée. Et d'autre part, c'est vers ma pensée même que je veux remonter. C'est lorsqu'elle naît, c'est lorsqu'elle marche, c'est lorsqu'elle est que je voudrais faire œuvre d'art et dire que l'œuvre d'art, c'est précisément ce fonctionnement. Et au fond, vous avez un peu défini ces deux démarches. Et elles ressemblent à un écartèlement et pourtant, elles sont parallèles. Et elles caractérisent absolument la démarche contemporaine. Et ça, c'est tout récent. Ça n'est pas une démarche qui existe depuis 50 ans ni depuis 10 ans. C'est une démarche qui existe depuis 2 ans, 3 ans. Pas plus.
Oui, mais remarquez ça, il y a quelque chose qui confirme ce que vous dites. C'est que quand on peint de cette façon, c'est impossible de peindre continuellement. Et c'est obligatoire de peindre beaucoup quand on peint. Justement, un peu pour attacher, enfin pour laisser au phénomène beaucoup d'importance, beaucoup d'agressivité vis-à-vis de soi. Faire une toile, pour moi actuellement, ça m'intéresse assez peu. J'aime en faire 5-6 de suite. On a le temps dans une journée d'en faire 5-6, on a même le temps de réfléchir entre-temps. Et puis, il y a beaucoup d'autres moments qui restent où je me préoccuperai peut-être davantage, comme vous le disiez, de ma pensée. Bon.
Et c'est tellement vrai qu'un certain nombre de peintres qui ne renoncent pas à peindre avec de l'huile et des brosses, qui sentent néanmoins qu'il se passe quelque chose à côté de leur propre démarche, qui voudraient s'insérer dans ces démarches, non pas parallèles, mais juxtaposées, ces démarches voisines, et qui ne savent pas comment s'y insérer, et qui probablement ne peuvent pas s'y insérer, se vengent en quelque sorte avec l'idée de série de toiles, et s'efforcent dans la même journée, ou dans les deux jours, dans les trois jours, de faire 100, 200, 300 toiles, très vite, et qui utiliseraient toutes la même, qu'est-ce qu'il faut dire, la même matrice, je ne sais pas, la même origine. Et ça ne paraît pas très satisfaisant.
Oui, alors il y a une autre chose qui me paraît assez importante, c'est que je crois que c'est impossible pour un artiste maintenant de se créer un style. Je veux dire par là d'utiliser, de décider à l'avance qu'il va toujours utiliser le même phénomène pour intervenir. Ce serait une limitation, je crois, un peu stupide. On peut, à la rigueur, se définir un style d'intervention, mais absolument pas se limiter à un phénomène. Alors ça risque évidemment de semer beaucoup de confusion dans l'esprit des gens, parce qu'ils verront leur peintre auquel ils sont habitués se mettre à peindre autrement, ou à faire autre chose, mais sa démarche à lui restera la même. Ça ne me paraît pas invraisemblable, comme ça ne me paraît pas de la dispersion, si vous voulez, du tout. Alors qu'on a, à juste titre, on a pu penser qu'il y a 50 ans, si un peintre se mettait à changer de style continuellement ou à faire autre chose, il n'était pas sérieux.
Ah ben, Lévi-Strauss avait remarqué tout de même que chez Picasso, on voit
ça. Oui, justement, j'y pensais. C'est vrai, ça, chez Picasso. Mais chez Picasso, c'est peut-être un peu différent. C'était une surabondance de talent.
Et en musique, chez Stravinsky.
Chez Stravinsky, oui. Mais je ne sais pas si c'est tout à fait la même chose. Oh, peut-être.
Bon, mais pour moi, qui vois de l'extérieur ce que fait un artiste, j'ai pu constater une chose. Dans le domaine de la musique, l'intervention de la machine électronique n'empêche pas absolument de rattacher une œuvre à son créateur.
Oui.
Il arrive même fréquemment qu'une œuvre obtenue à l'aide de la machine électronique soit vraiment de un tel.
Oui, d'accord. Hein.
Qui avait proposé la structure mathématique utilisée.
Oui.
Et il y a des mousses que vous faites que l'on peut très directement rattacher à des peintures que vous faisiez il y a 10 ans.
Oui. Possible.
Et que vous faisiez il y a 10 ans avec une brosse, précisément.
Oui.
Alors que vous faisiez œuvre de peintre au sens tout à fait classique du terme. L'intervention d'un matériau neuf qui vous a amené résistance nouvelle et menace nouvelle n'a pas fait disparaître l'homme.
Oui. Ben, j'ai cru à un moment d'ailleurs que ça pouvait faire disparaître l'homme, qu'il n'y avait plus d'art possible. Puis, ben, je crois que non.
Vous le souhaitiez ?
Non, ça m'embêtait, ça rendait la vie un peu invivable. Mais enfin, je n'avais rien d'autre. Je ne pouvais plus peindre comme avant. Et j'avais encore rien d'autre, alors je ne pouvais rien faire.
Qu'est-ce qui est découvert pour vous maintenant ? Et qu'est-ce qui, à l'avenir, sera découvert pour vous ?
Eh bien, d'abord, cette histoire de mousse ne me paraît pas du tout terminée. Je compte beaucoup pouvoir faire, par exemple, des mousses très très grandes. Ou alors faire des mousses à plusieurs toiles. C'est pas du tout ce qui peut se passer là, il peut se passer beaucoup de choses. On peut imaginer par exemple 5 petites toiles autour desquelles je tourne et puis brusquement les ramasser toutes, les remettre sur une ou je ne sais pas, enfin il peut se passer beaucoup de choses. Puis alors surtout, je voudrais rester au courant de tout ce qui se passe et puis guetter tous les phénomènes dans lesquels je pourrais éventuellement intervenir. C'est ça qui me paraît l'avenir. C'est bizarre d'ailleurs parce que à n'importe quelle époque, on n'a jamais pu imaginer quoi que ce soit, imaginer ce que pouvait devenir l'art dans un an, dans 6 mois, maintenant on peut un petit peu imaginer justement parce qu'il y a ce qu'il y a en face dont on se sert. Évidemment on ne peut pas imaginer le personnage qui s'en servira, mais tout de même c'est... On n'a pas... Je crois que si on pouvait imaginer un peintre au bout de sa carrière qui se dise j'ai fini ce que j'avais à faire, je sais pas si c'est possible, c'est peut-être possible, je crois que oui, certains peintres doivent en être conscients. Il doit avoir l'impression qu'il n'y a plus de peinture après lui, que c'est terminé, tandis que le cas d'un peintre du style de ce dont vous parlez ne peut pas se dire ça. Il sait qu'il y aura toujours une possibilité d'intervenir.